Bonjour Nicolas Berryman.
Bonjour.
Vous êtes physiologiste de l'exercice à l'Institut national du sport du Québec et également signataire, si je peux dire, ou chercheur du moins, de cette recherche qui s'intitule « Tous les chemins mènent à Rome, activité physique et cerveau, l'importance est de bouger ». Et ce que je disais tout à l'heure, vous ne m'avez peut-être pas entendu, donc en ouverture d'émission, c'est que c'est une bonne nouvelle parce que c'est une responsabilité. Le vieillissement de la population, c'est pas juste une responsabilité pour la société, pas juste un défi pour la société, mais pour les gens qui vieillissent. Et bon, on est tous concernés, à savoir comment on se garde en forme et au sommet de cette forme cognitive-là, notre cerveau, comment on peut le garder en santé. Et cette recherche-là que vous avez menée en collaboration avec l'Institut universitaire de gériatrie de Montréal, c'est en fait, ça démontre un petit peu que toutes les avenues sont possibles et peuvent être bonnes.
En fait, ce que la recherche tend à suggérer, en effet, c'est que au-delà des méthodes d'entraînement, disons conventionnelles, celles qui visent l'amélioration, par exemple, de l'aptitude aérobie, de la santé cardiovasculaire ou des méthodes qui visent les gains en force musculaire, ben il y a d'autres méthodes qui peuvent être intéressantes justement pour améliorer les fonctions cognitives. On parle ici de méthodes d'entraînement qui vont viser davantage les habiletés motrices globales des individus.
Comment vous avez mené cette entrevue-là? Vous avez repêché des gens de 65 ans et plus, c'est ça?
Oui, voilà. Donc, on a fait des annonces un peu partout à Montréal, peut-être un petit peu plus vers l'ouest de l'île, vers l'Institut de gériatrie de Montréal. Et puis, on a recruté donc des gens d'un peu plus de 60 ans qui étaient en bonne forme physique. Donc, il y avait, sans être des athlètes, c'était des gens qui ne présentaient pas de problèmes de santé majeurs. Et puis, donc, on les a inclus, là, des hommes et des femmes qui ont été invités à participer à ce projet qui était d'une durée qui s'est échelonnée, en fait, sur 14 semaines, là, si on prend en considération le temps consacré aux tests physiques et puis le temps consacré aux entraînements, là, bien sûr.
OK. Et vous avez séparé ce groupe-là en trois groupes.
Donc voilà, donc l'objectif, c'était de comparer trois méthodes d'entraînement. Comme je le disais un petit peu plus tôt, de façon classique, il était bien reconnu là, que l'entraînement aérobie, l'entraînement cardiovasculaire était bénéfique pour les fonctions cognitives chez les aînés. Un peu plus récemment, il y avait eu des démonstrations à l'effet que l'entraînement en force musculaire était aussi bénéfique pour améliorer les fonctions cognitives chez les aînés. Et nous, on voulait comparer également avec donc différentes méthodes, différentes modalités d'entraînement. Donc, il y avait un groupe là qui s'est entraîné, qui combinait à la fois l'entraînement aérobie et l'entraînement en force. Sauf que l'entraînement en force était fait exclusivement pour les membres inférieurs. Il y avait un deuxième groupe où là, on reprenait le même type d'entraînement, sauf que l'entraînement en force était fait exclusivement pour les membres supérieurs, les bras. Et enfin, un troisième groupe qui, lui, faisait des activités pour développer les habiletés motrices globales. On parle ici de parcours de locomotion, de manipulation d'objets, d'apprentissage de certaines techniques de jonglerie, d'étirement, de flexibilité, de choses comme ça.
OK. Et ça vous a permis de déceler quoi?
Bien, en fait, on s'est rendu compte que il y avait seulement donc les deux groupes qui ont participé aux entraînements de la condition physique. Donc, les gens qui ont fait l'entraînement aérobie et l'entraînement de la force, ce sont seulement ces gens-là qui ont amélioré certaines modalités de la condition physique. Je pense ici à la composition corporelle, donc la répartition de la masse grasse et de la masse maigre. Ils ont aussi amélioré la santé cardiovasculaire telle que mesurée par la consommation maximale d'oxygène et ils ont amélioré aussi les composantes de force. Ce qui est intéressant, par contre, c'est que les trois groupes ont amélioré de façon similaire les fonctions cognitives que nous mesurions dans cette étude-là.
Ah, voilà. Okay.
Donc, c'est un petit peu une surprise. On ne s'attendait pas à ça. On croyait que nos interventions, disons, qui visaient la condition physique, allaient faire en sorte que les gens allaient bénéficier d'améliorations plus importantes des fonctions cognitives. Mais on s'est rendu compte que les améliorations étaient plutôt similaires. Alors là, on était un petit peu surpris au départ, mais rapidement, on a pu retrouver dans la littérature quelques recherches assez récentes sur lesquelles on a pu s'appuyer, puis qui viennent nous confirmer que ce qu'on observe, là, c'est un phénomène réel, c'est-à-dire que l'entraînement des habiletés motrices globales semble aussi intéressant pour améliorer les fonctions cognitives.
Et Nicolas Berryman, ça signifie quoi pour, et je m'adresse aux gens qui nous écoutent, qui ont peut-être 60, 65 ans et plus, qu'est-ce que ces gens-là ont à retenir de façon bien concrète dans leur vie de tous les jours?
Ben, je pense que le titre du communiqué de presse et de l'article lui-même est assez révélateur, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs chemins qui mènent à Rome. Et je pense aussi que dans une perspective de progression, de planification de l'entraînement à long terme, ça peut être intéressant d'entrevoir peut-être une séquence de planification des exercices. Ce que ça veut dire, c'est que pour quelqu'un qui est plutôt sédentaire, ou même très sédentaire dans la vie de tous les jours, et qui se voit mal passer au gymnase du jour au lendemain, travailler à des intensités très élevées, peut-être que ça peut être une bonne idée de commencer simplement par des activités qui visent le développement des habiletés motrices globales. Qui pourrait éventuellement être faite de façon peut-être un peu plus facile à la maison. Et
Donc,
puis, une fois qu'on s'est bien adapté à ces entraînements-là, qu'on passe d'un mode très sédentaire à un mode un petit peu plus actif, alors là, peut-être que graduellement, on peut se mettre à des activités plus structurées d'un point de vue développement de l'aptitude aérobie ou de la force musculaire, par exemple.
Et moi, ce que j'entends par là, quand on dit « tous les chemins mènent à Rome », c'est que, et vous me corrigez bien sûr si je me trompe, c'est que bouger, l'activité physique, ça peut être jardiner dans le potager, l'entretien de la maison, ces choses-là aussi concrètes.
Alors, faut faire attention. Je pense que la petite nuance ici à laquelle il faut faire attention, c'est justement le lien entre les activités qu'on pratique et le développement l'amélioration des fonctions cognitives. Ce qui a été proposé dans notre projet, c'est vraiment des activités qui visaient les habiletés motrices globales. Donc, on va parler ici de parcours de locomotion avec obstacles à éviter.
OK.
Par exemple, activités de jonglerie, des choses comme ça.
Mm-hmm. Mais pas nécessairement, donc, des choses que les gens peuvent faire à la maison.
Oui et non. J'apporte la nuance ici. Il faut être prudent là, avant de tirer des conclusions trop hâtives par rapport à tout ça. Oui, les activités qu'on peut faire à la maison peuvent être efficaces. Vous parliez de jardiner, faire toutes sortes d'activités à la maison, que ce soit des activités d'entretien à l'intérieur, et tout ça peut être bénéfique. Je pense que l'accent doit être mis aussi sur des activités un peu plus structurées qui, elles, vont favoriser, par exemple, un maintien de l'attention. Je pense, entre autres, quand on a affaire de la jonglerie, nos fonctions cognitives sont bien impliquées dans l'action, ne serait-ce que par l'attention qui est nécessaire pour mener à bien cette tâche-là. Donc, je pense que c'est peut-être une petite nuance qu'il faut apporter ici. Là. Tous les chemins mènent à Rome, mais les mécanismes ou les façons d'atteindre les objectifs vont différer d'une méthode à l'autre.
J'aimerais bien voir mes parents se mettre à la jonglerie.
Ouais.
Je trouverais ça bien amusant.
Je garde de très bonnes images, de très bons souvenirs là, des séances qui avaient lieu dans le gymnase de l'Institut de gériatrie où effectivement, souvent, ça se déroulait là, avec beaucoup de sourires et même des éclats de rire.
Mais en terminant, Nicolas Berman, pardon, je pense qu'est-ce qu'il faut retenir, c'est que l'activité physique, ça a des bienfaits, oui, pour la santé des personnes âgées, mais également pour leur santé cognitive.
Oui, exactement. Ouais. Ça, c'est un message très, très important. Il faut trouver la façon qui nous convient, mais l'important, là, c'est vraiment de s'activer, de bouger. Et il ne faut pas oublier aussi, d'un point de vue, disons, de la condition physique, l'entraînement aérobie, l'entraînement de la force, ce sont les seules stimulations dans notre projet qui ont mené à des améliorations de la condition physique. Donc, éventuellement, ce sont des méthodes d'entraînement vers lesquelles il faut aussi tendre. Par contre, comme je le disais tout à l'heure, c'est dans une perspective de progression, peut-être que pour des gens sédentaires, ça peut être intéressant de commencer avec des entraînements qui, en apparence, sont moins intenses, mais qui peuvent aussi amener un aspect ludique, là, je pense, à des activités de jonglerie, des choses comme ça, comme on parlait tout à l'heure.
Nicolas Berryman, vous êtes physiologiste de l'exercice à l'Institut national du sport du Québec. Et pour consulter cette recherche, on peut aller sur le site de l'Institut de gériatrie de Montréal. Donc, l'Institut universitaire, oui, www.iugm.qc.ca. Tous les chemins mènent à Rome, activité physique et cerveau. L'important, c'est de bouger. Merci beaucoup, Nicolas. Au plaisir.
Merci à vous. Au revoir.